Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Qu'allons-nous devenir maintenant ? Demanda le prince à la jument. Je voudrais bien retourner dans mon pays. Non, répondit la jument blanche, il faut faire route pour Paris. Elle se mit à marcher et le jeune prince trouva un ruban en diamant qui éclairait la nuit comme le jour. Dans ce temps-là, Paris n'était pas aussi grand qu'il est maintenant. Quand ils arrivèrent auprès, il mena la jument blanche dans une pâture. Elle était alors grasse et fraîche à faire plaisir. Tu vois cette grande maison, lui dit-elle, c'est là que demeure le roi. Il a besoin d'un pâtour pour ses brebis, il te prendra à son service et tous les jours tu amèneras ton troupeau ici. Le jeune homme se présenta au château et comme un des bergers était parti le matin, on le gagea pour le remplacer. Il conduisit ses brebis à l'endroit où pâturait la jument blanche et quand elle le vit, elle dansait et hennissait de joie. Il ramena ses brebis le soir, elles étaient belles et bien repues, tandis que celles des autres bergers étaient plates et maigres. Tous les jours, il retournait à l'endroit où était sa jument et son troupeau engraissé à vue d'œil, au lieu que celui des autres pâtours ne faisait que maigrir. « Hein, disait le roi, voici un berger qui a des brebis bien plus belles que les autres. » Les pâtours étaient jaloux de lui, et il cherchait le moyen de le perdre. Il était défendu d'allumer de la chandelle le soir dans les étables. Une nuit, le prince se mit à regarder son ruban de diamant. Il éclairait comme plusieurs lampes, et la lumière brillait à travers les fentes de l'étable. Les autres pâtours vinrent trouver le roi et lui dirent « Maître, le nouveau berger allume de la chandelle malgré votre défense. » Le roi vint voir. Mais le pâtour entendit du bruit et il ramassa vivement ses diamants dans sa poche. Le roi ne vit point de lumière et il traita ses bergers de menteurs. Les pâtours se dirent « Pour nous défaire de lui, nous allons raconter au roi que le berger s'est vanté de pouvoir amener ici la belle aux clés d'or. » Ils allèrent parler au roi qui fit venir le pâtour et lui dit « Tu t'es vanté d'aller chercher la belle aux clés d'or, il faut que tu l'amènes ici. » « Jamais je n'en ai parlé, répondit le prince berger, et je ne savais même pas qu'elle existât. « Cela m'est égal, dit le roi, amène-la ici, où il n'y a que la mort pour toi. » Le berger se rendit en pleurant à la pâture où était la jument blanche, qui en le voyant se mit à sauter de joie. Mais elle s'aperçut bientôt qu'il avait l'air affligé. « Pourquoi es-tu triste ? » lui demanda-t-elle. « Le roi m'a ordonné de lui amener la belle aux clés d'or, je ne sais pas où elle demeure et je me désole, car si je n'y parviens pas, il a juré de me tuer.
« N'est-ce que cela ? » répondit la jument. « Ce n'est pas la peine de te chagriner pour si peu. Tu vas dire au roi de faire construire un vaisseau qui brille comme le soleil. Tu y embarqueras avec quelques hommes d'équipage et tu te dirigeras vers l'ouest-nord-ouest. Tu arriveras au château de la Belle aux Clés d'Or, qui est bâti au pied des montagnes et soutenu par 4 géants. Les montagnes brillent comme des diamants parce qu'ils sont couverts de neige. Là, tu verras la belle aux clés d'or et tu l'inviteras à monter à bord de ton vaisseau. »
La Belle aux Clés d'Or. Derrière ce titre plein de promesses se cache un conte complexe aux multiples rebondissements. Troisième émission sur les traces du jeune pâtour et de sa jument blanche avec le docteur Dominique Desmichel. Les règles du jeu sont des plus simples, tentez de décrypter ce conte comme s'il s'agissait
d'un rêve. Je vous rappelle que l'intégralité du conte est disponible sur notre site internet www.radiograndciel.fr, rubrique règlement de conte. Bonjour docteur Dominique de Michel.
Bonjour.
Comme nous venons de l'entendre, le chasseur qui s'est échappé de l'antre du diable a été sauvé par une jument blanche et ensemble ils ont traversé la rivière et c'est quasiment une nouvelle histoire qui commence. Mais avant de commencer, vous désiriez faire un court résumé des épisodes précédents, comme on pourrait l'entendre dans un feuilleton.
Voilà, surtout qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs que vous m'avez donné le conte en gros quelques minutes avant qu'on commence et que l'enjeu c'était de se dire on prend ce conte comme si c'était un rêve, comme si on l'écoutait quasi pour la première fois et donc ça n'est pas du tout le résultat, enfin notre échange n'est pas le résultat d'un long temps de discussion, de maturation. Donc si on reprend, rapidement, c'est un roi, il a trois fils. On peut remarquer qu'il n'y a pas de reine et qu'il n'y a pas de fille, que pour les fils, il s'agit de trouver un métier, et que le fils qui part va tomber très vite sur une femme qui est plutôt destructrice. Donc on peut garder ça dans l'idée qu'il y a un roi et des fils, que des garçons, qu'il n'y a pas de reine et qu'il n'y a pas de fille, et que le premier élément féminin qui apparaît, c'est un élément qui est plutôt destructeur. On a pu se dire que dans cette quête intérieure, on se retrouvait devant deux figures parentales, un cheval gris, comme une figure donc paternelle, pas très réjouissante, mais vivante, et une jument blanche qui serait une figure du féminin à l'intérieur de l'inconscient. Il y a une course, il y a un pont, et puis on se retrouve ensuite dans un autre territoire avec un roi.
De l'autre côté de la rivière.
De l'autre côté de la rivière, en effet.
Alors c'est quasiment une seconde histoire qui commence, et cette histoire commence eh bien, par cette question. Et maintenant, qu'allons-nous devenir ? Demande le jeune prince à la jument, en ajoutant qu'il voudrait bien, lui, retourner dans son pays. On a vraiment affaire, docteur Dominique de Michel, à un prince qu'il faut tenir par la main, qu'il faut tirer pour que l'aventure avance. Hein. Sinon, on se serait arrêté depuis longtemps, hein.
Oui, puis on sent bien qu'il va y avoir quelque chose qui se joue entre la monture et puis son cavalier, hein, c'est-à-dire entre la jument et puis ce personnage du prince. Hein. Donc il est là et ce jeune prince a envie de revenir dans son pays.
Donc il est dans un territoire inconnu, déstabilisé, j'imagine, et il va devoir sa survie, même pas sa survie, tout simplement, il met sa vie entre les mains de la jument blanche en lui demandant ce qu'il doit faire. Ça peut paraître étonnant pour un héros, le héros d'un conte et un prince.
Oui, alors probablement il reste le héros, mais il reste le héros guidé par sa monture, au fond. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de cavalier sans cheval. Ici, la jument ici est très très importante. D'ailleurs, c'est étonnant quand il dit « je voudrais retourner dans mon pays », elle lui dit « non ». Voilà, donc c'est clair, c'est carré. Non, ça veut dire il y a autre chose à faire et il faut aller où ? Il faut aller à Paris.
À Paris, qui pourrait donc la capitale, le centre, au niveau inconscient, on pourrait se dire à un endroit en tout cas d'une importance capitale pour la suite de l'histoire.
Bah ouais.
Et en chemin, il trouve un ruban en diamant, je cite, qui éclairait la nuit comme le jour.
Oui, c'est intéressant cet élément parce que à partir du moment où ils ont quitté cette zone un peu sombre, ils ont traversé le pont. Ils commencent leur parcours ensemble et la première chose, c'est ce bracelet en diamant. J'ai pas trop d'idées pour l'instant sur ce que ça peut être. Toujours est-il que c'est quand même une sorte de lumière dans la nuit. On peut se rappeler que dans l'histoire de l'ogre et du petit poucet, par exemple, hein, il va trouver une petite lumière au cœur de la nuit. Ouais. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une dynamique, je dirais, du soi, c'est-à-dire d'une dynamique qui, à l'intérieur d'un individu, va l'aider à grandir, qui est ici découvert à partir du moment où on se met en chemin.
Alors avec la jument blanche, sur le dos de la jument blanche, ils arrivent à Paris, et ils amènent la jument blanche dans une pâture, dont il est dit qu'elle était grasse et fraîche à faire plaisir. Et puis cette pâture, eh bien, ça va être un peu le décor pour la jument blanche, en tout cas. Tout le reste de l'histoire, elle va rester dans cette pâture, et le prince, le chasseur, qui va devenir Patour, lui rendra visite entre chaque aventure.
Oui, là aussi on voit bien que c'est la jument qui est à l'initiative du déroulement du récit. C'est elle qui décide.
Elle est à l'initiative, mais elle a un côté passif après, à partir de ce moment-là. Oui. Elle reste dans sa pâture.
Oui.
Quoi,
hein. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'elle n'agit pas, mais elle ne fait que parler. On a envie d'entendre la conscience Jiminy Cricket dans Pinocchio, presque.
Oui. Moi, je suis d'accord avec votre comparaison. Elle est là pour le transporter à des endroits qui sont des endroits clés de son existence inconsciente.
Exactement.
Mais ensuite, c'est lui qui doit continuer son parcours.
Même si il ne remet jamais en cause les propos de la jument.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment important. Je crois que vraiment, il faut bien qu'on prenne le temps de réfléchir à cette articulation entre ces deux personnages. Puisqu'au fond, elle le dépose quelque part et elle le mène dans un lieu. C'est-à-dire, elle va lui désigner un lieu et là, il a quelque chose à faire. Elle lui a dit, il faut aller dans un lieu capital. Voilà, un capital pour toi, pour ton inconscient. Je reprends votre terme, ça me paraît juste avec l'idée de Paris. Et puis ensuite, il faut faire quelque chose.
Alors ce quelque chose, c'est de se rendre au château du roi. Car cette jument blanche sait par avance que le roi va avoir besoin d'un patour.
Oui, c'est aussi intéressant de se dire que la jument, elle a désigné des brebis. Elle est dans un endroit où il y a des brebis, hein, puisqu'elle lui dit, tu vas te faire embaucher.
Et le roi a besoin d'un patour pour ses brebis,
voilà,
dit-elle.
Donc on a envie de se dire, qu'est-ce que peuvent représenter ces brebis? Les brebis, c'est évidemment un contenu animal, un contenu donc instinctif. Hein, les animaux, dans les rêves comme dans les contes, représentent en général des parties instinctives à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des instincts féminins. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, je reprendrai cette idée qu'il y a quelque chose d'un manque d'un féminin dans le territoire initial, dans le territoire du roi, puisqu'il n'y a pas de reine, il n'y a pas de fille. Ensuite, ce féminin animal, ce féminin instinctuel, il émerge à partir de l'inconscient, à partir de la forêt. Il porte le désir au fond de notre héros, et là, on va se retrouver avec un autre féminin. J'aurais un peu tendance à penser, mais on va voir au fur et à mesure qu'on réfléchit, j'aurais tendance à penser que les brebis pourraient représenter une sorte de féminin collectif du roi. Hein. Ce serait peut-être les sujets féminins du roi, à la limite. Voyez.
Alors le roi n'est pas encore apparu pour l'instant dans cette histoire, puisqu'il s'agit de la concurrence entre le jeune patour qui se fait engager au château et les bergers qui étaient déjà engagés. Et donc, comme le dit l'histoire, les brebis de notre jeune prince sont beaucoup plus grasses et en bien meilleure santé que les brebis des autres bergers. Et les autres bergers vont se trouver jaloux du jeune patour.
Si on le prend en termes de causalité, il me semble que justement, ici, le conte vient nous dire que l'articulation entre le masculin, les bergers, qui sont des humains, et le féminin, qui serait que du côté de l'instinct, hein, puisque ce sont des animaux, en l'occurrence ici les brebis, eh ben, tout ça, c'est pas en bonne santé. C'est pas en bonne santé. Donc il y a un féminin qui était absent au début, qui ici est représenté que sous une forme animale, et ça marche pas très très bien. Et puis il y a un espace un peu différent, c'est les brebis de notre héros, dans un lieu qui est en quelque sorte aussi habité par la jument.
Alors le roi fait son apparition assez vite et le roi, ben voilà, je vais vous dire ce qu'il dit. Voici un berger qui a des brebis bien plus belles que les autres. Et donc les autres patours, en effet, sont jaloux et cherchent le moyen de perdre notre héros.
On comprend bien que si dans un royaume, le masculin et le féminin sont pas dans une bonne relation, il risque d'y avoir des conflits. Hein. Le masculin représentant quelque chose du côté du discours, de la parole, de la volonté, de l'énergie. Le féminin représentant quelque chose du côté du lien, des sentiments, de l'émotion. Tout ça est un petit peu caricatural, bien évidemment, et il s'agit bien de se rappeler que le masculin n'est absolument pas une spécificité de l'homme et le féminin une spécificité de la femme. Nous avons cette double polarité sexuée et donc symbolique à l'intérieur de nous tous.
En tout cas, notre héros a des problèmes relationnels avec son entourage.
Oui, lui, il est probablement une espèce de corps étranger qui vient apporter quelque chose de nouveau au royaume. Ouais. Et d'ailleurs, le roi le sent bien, puisqu'il remarque que les brebis, c'est-à-dire les éléments, les sujets, on pourrait dire féminins, du royaume en relation avec notre héros, se portent mieux.
Je poursuis. Il était défendu d'allumer de la chandelle le soir dans les étables. Une nuit, le prince se mit à regarder son ruban de diamant. Il éclairait comme plusieurs lampes, la lumière brillait à travers les fentes de l'étable, et les autres patours en profitent pour aller voir le roi et dénoncer le berger en disant qu'il allume une chandelle, malgré votre défense, disent-ils.
C'est étonnant ça, parce que...
C'est son objet magique finalement qui lui porte préjudice.
Voilà, c'est son objet magique dont on a bien l'impression que là il vient éclairer la nuit. Hein,
ouais, toujours.
Tout à l'heure c'était le jour et la nuit, mais là on voit bien que c'est dans la nuit. C'est sûr que c'est quelque chose qui éclaire, c'est surtout utile dans la nuit. Donc il y a quelque chose, pour moi c'est une figure du soi, hein, cet objet-là. C'est-à-dire ça représente la dynamique intérieure du sujet qui potentiellement peut grandir. Hein, il faut se rappeler que pratiquement tous les contes sont des contes pour aider à grandir. Et que là c'est vivant, mais qu'au fond... Comme ça n'est pas récupéré ni récupérable, ou en tout cas ça n'est pas en possession des autres patours, leur relation entre eux comme masculin avec leur féminin représenté par les brebis ici, ça ne fonctionne pas.
Il y a conflit.
Donc ils ne vont pas bien. Voilà.
Il y a conflit, voilà.
Ouais, exactement. Ouais.
Alors le roi vint voir, mais le patour entendit du bruit, il cache ses diamants. Les bergers vont avoir un deuxième subterfuge et simplement faire croire au roi que le berger s'est vanté de pouvoir ramener ici la belle aux clés d'or. Apparaît enfin, après vraiment une grosse introduction, hein, notre belle aux clés d'or.
Voilà, mais vous voyez, du coup, c'est quand même relativement logique. Hein. Si on se dit qu'il y a quelque chose du côté d'un féminin qui marche pas bien, hein, et que tout ça est dans une logique, du coup, on se dit, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher une fée, on va aller chercher un féminin. Voilà. Et donc, là, la belle aux clés d'or, c'est... voilà. Il est relativement logique que le roi dise, puisque toi, tu as des brebis qui sont en bonne santé, c'est bien toi qui est à même de pouvoir aller nous chercher l'équivalent humain de cet instinct animal. Hein, voilà.
Donc, alors ces clés, cette belle aux clés d'or, c'est assez énigmatique comme patronyme. Ces clés, elles vont ouvrir quoi? Elles pourraient ouvrir quoi?
La clé et la serrure, hein, il n'y a pas besoin d'être freudien pour y penser, ça représente le plus souvent quelque chose de l'énigme autour de la sexualité. Hein. Il y a une clé et une serrure, il y a un masculin et il y a un féminin, il y a évidemment un pénis et un vagin, mais il ne faut pas l'entendre simplement dans la partie organique, mais il faut aussi l'entendre, même s'il y a cette composante, bien évidemment, mais il faut aussi l'entendre dans le sens symbolique. Donc je crois qu'ici, cette belle, elle a de l'or, et que cet or est susceptible d'ouvrir une serrure.
Alors, voici la première étape, il va y en avoir donc trois, du berger qui va partir à la recherche de la belle aux clés d'or. Alors, ça va se répéter donc trois fois, et comme à chaque fois, eh bien, le berger est mortifié parce qu'il n'a aucune idée de comment on pourrait trouver cette belle aux clés d'or. Et il s'apprête quasiment irrésolu à mourir. Hein. Il va voir sa jument blanche en lui disant « Eh bien écoute, c'est un peu la dernière fois que je te vois. » Et là, c'est la jument blanche qui va lui donner clé en main la solution à son problème.
C'est sûr qu'il n'a pas tout à fait le look de Bruce Willis prêt à vous sauver le monde en 1h30.
Il baisse les bras tout de suite, lui.
Ouais,
hein,
il baisse les bras. Et moi, j'aurais envie, sur le plan symbolique, de dire que s'il baisse les bras, c'est que ce qui l'anime n'est pas vraiment intériorisé. Et voilà, il n'a pas... Ce qui anime un homme, c'est souvent son féminin, et ce qui anime une femme, c'est souvent son masculin. Il faudrait développer ça peut-être un peu plus longuement, mais prenons ce parti pris. Donc lui, il va buter sur le fait que le roi, c'est-à-dire la personne tutélaire, une figure aussi paternelle, une figure de pouvoir qui est en attente, lui demande de faire quelque chose, et lui, il n'est pas à même d'y répondre, parce que probablement son féminin à l'intérieur de lui-même n'est pas intégré. Et que Tant que ce féminin est représenté par les brebis et que ces brebis sont dans l'espace de la jument, c'est vivant. Mais quand il s'agit que lui, il le mette en scène, eh ben, au fond, ça ne fonctionne pas. Donc, il retourne à sa jument.
Alors, vous êtes psychanalyste, je suis patient et je vous raconte ça. Est-ce que vous ne voyez pas non plus une histoire de confiance en soi, peut-être ? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des patients qui sont paralysés, finalement, par n'importe quelle tâche dans la vie, enfin surtout des tâches relativement importantes, hein, on est d'accord, par un manque de confiance en eux, par une incapacité à se projeter, une incapacité à aller de l'avant.
Oui, bien sûr, mais il me semble que ce manque de confiance en soi, je m'inviterai en tout cas à le penser dans deux directions. La première, qui est une sorte de, enfin qui relèverait d'une sorte de dévalorisation narcissique profonde. Hein. On peut par exemple imaginer que dans une histoire d'enfant, l'enfant a été désigné comme étant toujours le mauvais, le nul. Hein. T'es gros, t'es bête, t'es méchant et tout ça. Ou t'es grosse, t'es bête, t'es méchante. Évidemment, c'est lourd pour trouver sa propre identité. Le deuxième élément du côté de ce manque de confiance en soi tient au fait qu'on n'a pas trouvé sa voie. Quand on n'a pas trouvé sa voie, on ne peut pas mettre d'énergie dedans, hein, parce qu'on n'est pas dans une sorte de résonance avec un vrai parcours intérieur et personnel. Donc il me semble que là, il n'y a pas vraiment d'éléments qui ont l'air de dire qu'il y aurait une sorte de blessure narcissique, une blessure d'amour-propre initiale. Ça peut arriver, hein. Il y a des contes, il me semble, j'en ai pas en tête, mais il y a des contes dans lesquels on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, il me semble qu'il s'agit plutôt que lui, il n'a pas trouvé sa voie parce qu'il n'a pas de féminin à l'intérieur de lui-même.
Mais il a trouvé sa voie VOX en la personne de la jument, ceci dit.
Oui, mais c'est quand même quelque chose qui, pour l'instant, est extérieur, hein. Le moment où il y a un vrai échange entre les deux, c'est lorsque lui, il est sur le dos de la jument. Hein. Là, il y a vraiment, on pourrait dire, une scène sexuelle, c'est-à-dire un vrai lien entre tous les deux. Et donc, il y a du mouvement. On sort de la partie sombre, on sort de l'inconscient ou de la forêt inconsciente dangereuse. Et on se retrouve dans un lieu plus vivant où il y a quelque chose qui avance. Tandis que là, sa jument, voilà, on pourrait imaginer un autre conte où, quand il va voir le roi, il y va avec sa jument. Ou quand il retourne s'occuper de ses brebis, il est toujours sur sa jument. Non, là, il laisse sa jument de côté et il ne l'intègre pas. Voilà. Voilà. S'il l'intégrait, à mon avis, il serait toujours perché sur sa jument. Voilà. Et c'est lui qui tiendrait les rênes, c'est lui qui dirait où il faut. De temps en temps, il pourrait se pencher sur l'encolure de la jument en lui disant « Bon, je tourne à gauche, je tourne à droite » et peut-être que la jument lui dirait bah, « Laisse-toi faire et puis suis ton instinct, mais ton instinct que tu as à l'intérieur de toi-même. Je dirais même de ton instinct que tu as entre tes deux cuisses. Hein » voilà, c'est-à-dire dans quelque chose qui t'aide à prendre une décision.
Oui, on voit bien le paradoxe que ce conte met en place, évidemment, où le cavalier et la jument de sa jument, presque.
Oui. En tout cas, ils sont...
Toujours là-dessus, oui.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, je vais me permettre, chers auditeurs, de vous rappeler les conseils de la jument pour aller chercher la belle clé d'or. Tu vas dire au roi, lui dit-elle, de faire construire un vaisseau qui brille comme le soleil, et tu y embarqueras avec quelques hommes d'équipage, et tu te dirigeras vers l'ouest-nord-ouest. Tu arriveras au château de la Belle au Clé d'Or, qui est bâti au pied des montagnes et soutenu par quatre géants. Les montagnes brillent comme des diamants parce qu'elles sont couvertes de neige. Là, tu verras la Belle au Clé d'Or et tu l'inviteras à monter à bord de ton vaisseau. Ouh là là, docteur Dominique Michel, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de symboles peut-être à décrypter là dans ce court passage.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ?
Un vaisseau qui brille comme le soleil.
Donc, le vaisseau, on pourrait dire, c'est comme une jument. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel on monte et qui permet d'aller d'un point à un autre. Donc là, on a envie de se dire, pourquoi c'est pas la jument ? Bah, j'allais dire la jument qui va sur l'eau, c'est-à-dire qui permet d'aller dans une autre terre étrangère, et bah, ça s'appelle un vaisseau. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Hein. C'est-à-dire, on est toujours dans la même logique. Alors, dans ce château, il est au pied des montagnes. La forêt, comme les montagnes, représente souvent l'inconscient. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a ces quatre géants. Alors, le symbole du 4, le plus souvent, c'est autour de l'immanence, c'est-à-dire de quelque chose qui tient la route, qui est bien posé sur le sol, hein. Et on imagine, voilà, c'est comme les cariatides, hein, vous savez, ces figures de cariatides, c'est-à-dire ces figures de ces grandes statues qu'on voit souvent au pied des grandes des tours ou sous des chapiteaux ou dans des gros piliers, voilà, ces cariatides qui portent le dos sur le monde à l'image de la figure mythologique d'Atlas, par exemple, hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui est bien ancré, puis en haut, il y a un château. Voilà. Et le roi attend sa belle. Le prince doit aller la chercher et la jument lui indique le chemin.
Alors, on a aussi des matériaux très très nobles, en tout cas très purs, qui ressemblent au soleil, qui ressemblent à la neige,
oui.
Qui sont donc lumineux.
Oui.
On avance vers un pays lumineux sur une embarcation lumineuse.
J'aurais un peu envie de faire un parallèle entre le ruban de diamant qui éclaire la nuit et ici d'un ruban de montagne couvert de neige qui éclaire aussi, mais dans une dimension plus archaïque ou plus inconsciente, le paysage, voyez, hein ?
Eh bien, nous allons, chers auditeurs, vous laisser sur ce suspense insoutenable et nous nous retrouvons dans 15 jours pour poursuivre les aventures de notre prince, de sa jument blanche et de la belle au clé d'or. Merci beaucoup, docteur Dominique Demichel.
Merci.
Is far and wide, fair boon, God.